Dans une poignée de secondes, il sera 12h30. Et voilà, il est 12h30 pile, les informations. Antoine Mercier, bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Pas de sortie de crise en vue dans le conflit sur la loi travail. Les organisations appellent à poursuivre et même à amplifier les mobilisations. François Hollande lui affiche sa fermeté. « Je tiendrai bon parce que je pense que c'est une bonne réforme », affirme le chef de l'État, suivi du conflit dans un instant avec Anne-Laure Chouin. La visite historique de Barack Obama à Hiroshima, le chef de la Maison-Blanche, appelle ce matin à un monde sans armes nucléaires. Correspondance de Frédéric Charles. Aux États-Unis, le compte semble bon pour Donald Trump, qui revendique avoir passé la barre des 1237 délégués en raison de plusieurs ralliements républicains, analyse avec Nadine Epstein. Et puis ces deux nouveaux naufrages meurtriers de migrants au large de la Libye. Les survivants parlent d'une centaine de disparus bloqués dans la coque du bateau qui comptait 650 personnes à son départ de Libye. Commentaire de Marie-Pierre Véraud, l'invité de la séquence interview. Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Dans la dernière partie, Caroline.
Que nous garderons un petit peu avec vous, Audrey Azoulay, si elle accepte de rester pour un petit bout de la dernière partie de la grande table. Puis nous recevrons, après avoir parlé des artistes et de la politique, nous recevrons le chercheur physicien prix Nobel de physique, Serge Haroche, avec qui nous parlerons de la recherche aujourd'hui en France.
Donc on ne voit toujours pas de sortie de crise dans ce conflit sur la loi travail. Les organisations syndicales appellent ce matin dans un communiqué à poursuivre, à amplifier les mobilisations, notamment, disent-ils, en multipliant et en soutenant les actions décidées par les salariés en Assemblée Générale, y compris reconductibles. Et puis depuis le Japon, où s'est achevé tout à l'heure le G7, François Hollande lui affiche sa fermeté, je le disais. Je tiendrai bon, dit-il, parce que je pense que c'est une bonne réforme. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Dans une certaine confusion ces derniers jours, on pensait peut-être qu'il y avait une issue politique qui pourrait être trouvée, notamment éventuellement en modifiant cet article 2 du texte. Mais maintenant, les deux camps réaffirment une nouvelle fois leur détermination. Calendrier à l'appui pour les syndicats.
Oui, un calendrier qui s'étend jusqu'à la mi-juin et que les syndicats réunis hier en intersyndical n'ont pas souhaité changer tant la situation actuelle leur paraît favorable. Alors refaisons le point. Les organisations appellent, vous l'avez dit, à poursuivre la mobilisation. Et justement, la SNCF appelle à partir de mardi à la grève quotidienne reconductible, officiellement contre la loi travail, mais aussi, voire surtout contre la réforme du temps de travail dans l'entreprise qui négocie, rappelons-le, sur l'harmonisation des règles privées-publiques en vue de l'ouverture à la concurrence. Le 2 juin, c'est la CGT-RATP qui se lance dans la grève illimitée, là encore, suivie par Sud-RATP qui débutera son mouvement le 10 juin, jour du début de l'euro. Les 3, 4 et 5 juin, tous les syndicats de l'aviation civile enchaînent. Le SNPL, principal syndicat des pilotes d'Air France, menace lui aussi d'une grève de plus de 6 jours. Si ça n'est pas une convergence nationale des luttes, ça y ressemble. Avec en point d'orgue, le 14 juin, un appel interprofessionnel à la grève et une mobilisation prévue dans la rue. De quoi tenir donc jusqu'à la veille de l'arrivée de la loi travail au Sénat, sans compter cette votation citoyenne proposée par l'intersyndicale qui souhaite donc une grande consultation sur le projet de loi travail menée dans les entreprises, les administrations et les lieux d'études. Une façon de faire valider par le vote les sondages d'opinion qui pourtant, pour l'instant, sont plutôt favorable au mouvement.
Alors question justement, est-ce que l'opinion est maintenant l'arbitre du conflit? Le journal Le Monde s'interroge ce soir à la une sur le point de savoir si Valls n'a pas perdu maintenant la bataille de l'opinion.
En tout cas pour l'instant, elle ne prend pas le parti du gouvernement. L'opposition au projet de loi ne date pas d'hier. Elle est trop ancienne pour se trouver modifiée par des blocages ou des pénuries pour l'instant. Et même si le discours des leaders syndicaux est loin d'être approuvé par une majorité, l'empressement de l'exécutif à vouloir engager ce type de réforme à un an seulement de la fin du quinquennat n'est toujours pas comprise. Un gouvernement accusé à la fois d'être la cause des tensions actuelles et de ne pas savoir y mettre fin. Et un gouvernement qui doit répondre à une sorte de coalition d'anti qui ont tous leur raison de ne pas vouloir de cette loi. La partition est donc plus facile à jouer pour les syndicats que pour Manuel Valls qui pour l'instant s'arc-boute sur une posture autoritaire en espérant qu'à la fin elle soit gagnante.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Parmi les réactions politiques, le candidat à la primaire de la droite Alain Juppé exprime son inquiétude sur la durée du mouvement qu'il voit s'étendre, dit-il, jusqu'à l'été. Et il estime que la seule sortie possible pour le gouvernement, c'est de rétablir le dialogue. Le mouvement républicain et citoyen souhaite, lui, l'organisation d'un référendum en septembre. Il a écrit d'ailleurs en ce sens à François Hollande. Audrey Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Ministre donc de la Communication et de la Culture. Comment est-ce qu'on sort de cette crise? Est-ce que vous avez une méthode? Vous, votre méthode?
Je pense qu'aujourd'hui, la situation, effectivement, n'est pas satisfaisante. Et que la seule solution, c'est le dialogue, mais le dialogue, je dirais, dans le respect de la démocratie. Le dialogue, c'est la discussion au Parlement, c'est les discussions avec les syndicats qui a eu lieu. Alors, on l'a dit, cette discussion a peut-être commencé un peu tard, mais elle a eu lieu. On a négocié, le gouvernement a écouté, le gouvernement est passé à l'Assemblée nationale, des amendements ont été faits. Et donc, je crois que la seule solution, c'est la poursuite du dialogue et le blocage, ou les tentatives de blocage, pénalisent l'ensemble du pays. On a un début de reprise, des chiffres du chômage, des chiffres de l'emploi qui sont encourageants. Et il ne faudrait pas pénaliser cette reprise.
Oui, on a quand même l'impression aussi d'une divergence au sein du gouvernement entre la ligne Hollande, la ligne Valls. Ce matin, en écoutant entre les lignes ce que disait François Hollande au Japon, il disait, bon, peut-être qu'il y aurait une négociation possible sur cet article 2 ou sur d'autres lors de la prochaine discussion à l'Assemblée, mais ça doit rester dans le cadre des négociations à l'Assemblée. Est-ce que ça, c'est une piste possible d'évolution du texte dans le processus législatif?
Je crois que ça a toujours été dit. Si le texte va au Parlement, c'est justement, moi je sors de 3 jours au Sénat pour des lois qui concernent la culture et la liberté de la presse. C'est tout le sel de notre démocratie. Ça se fait à l'Assemblée, ça se fait en discussion, ça se fait au Sénat, mais ça ne se fait pas uniquement dans la rue.
Il n'y a pas de ligne, la ligne Valls-Hollande, c'est la même?
Je ne crois pas.
Merci beaucoup. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour la séquence interview. Il faut savoir que le climat social se détériore aussi rapidement en Belgique, en particulier côté francophone. Il y a un syndicat de la fonction publique qui appelle à faire tomber le gouvernement du Premier ministre libéral Charles Michel, 2 jours après la manifestation qui a rassemblé à Bruxelles quelques 60 000 personnes opposées aussi à un projet de loi travail qui renforce la flexibilité. Et le trafic ferroviaire était arrêté en Wallonie. Les cheminots débraient spontanément pour protester contre la suppression notamment de jours de récupération décidés par leur employeur.
Obama à Hiroshima. Le président des États-Unis, Barack Obama, rend hommage aux victimes de la première attaque nucléaire de l'histoire. C'est une première et il appelle ce matin à construire un monde sans armes nucléaires.
Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel, déclarait ce matin donc le chef de la Maison Blanche, qui s'exprimait devant le mémorial aux victimes de cette bombe larguée par les États-Unis sur la ville le 6 août 1945. On écoute Barack Obama.
Il y a 71 ans, un matin lumineux, sans nuages, la mort est descendue du ciel et a changé le monde. Un éclair lumineux, un mur de feu ont détruit la ville. Sans doute, il est impossible d'éliminer les capacités diaboliques de l'homme. Donc les nations, les alliances que nous avons constituées doivent avoir les moyens de se défendre. Mais parmi ces nations, dont la mienne qui dispose de l'arme nucléaire, nous devons avoir le courage de sortir de la logique de la peur et d'aller vers un monde dénucléarisé.
Voilà Barack Obama qui a ensuite déposé une couronne de fleurs sur le cénotaphe qui contient des dizaines de volumes où sont consignés les noms des victimes. Frédéric Charles, vous avez vous enquêté sur la manière dont cette visite était perçue au Japon et en particulier par les survivants.
Le dicton veut qu'à Hiroshima prévaut la colère et à Nagasaki la prière. Eh bien, le jour où Barack Obama arrive à Hiroshima, la mémoire de son martyr nucléaire, la mémoire de la ville, apparaît aussi apaisée qu'à Nagasaki. Aucun des derniers hibakusha ou survivants de la bombe que nous avons rencontrés ne demande des excuses à Barack Obama. Ils apprécient sa visite, beaucoup, et pourtant ils souffrent toujours dans leur être, dans leur chair, meurent toujours de cancer dû aux radiations. Et ils ont été traités après la guerre comme des lépreux par le Japon qui les croyait contagieux, un peu comme les ouvriers de Fukushima dans les semaines qui avaient suivi l'accident nucléaire. Le plus remarquable aujourd'hui, lors de cette visite de Barack Obama, est de voir les survivants d'Hiroshima prendre de la distance avec leurs martyrs. Ils font preuve d'une grande dignité, reconnaissent la responsabilité du Japon dans la guerre. Alors que l'Amérique de Barack Obama refuse toujours d'exprimer le moindre remords, les États-Unis ne s'excusent jamais. Sous Barack Obama, les États-Unis ont modernisé leurs bombes nucléaires pour les rendre plus petites, plus maniables. Et le Japon, le pays d'Hiroshima, est très ambigu en matière de désarmement nucléaire. Il s'abrite derrière le parapluie nucléaire américain pour sa sécurité. Et même après Fukushima, il maintient une capacité nucléaire pour, le cas échéant, se doter à son tour de la bombe atomique.
Et aux États-Unis, le compte semble maintenant bon pour Donald Trump, qui revendique en tout cas hier avoir passé la barre des 1237 délégués nécessaires donc pour être investi en raison de plusieurs ralliements au sein de son parti républicain, de certains délégués qui l'ont rejoint. Il parvient donc à franchir ce seuil avant même Hillary Clinton. Dans son propre camp, les commentateurs parlent d'exploits politiques qui couronnent près d'un an d'une campagne souvent qualifiée, Nadine Epstein, d'iconoclaste.
Cela fait deux semaines que Trump est sûr d'obtenir le nombre de délégués nécessaires à son investiture depuis qu'il a éliminé tous ses rivaux républicains et rallié les cadres du parti. L'union autour de Trump étant acquise, le milliardaire se glorifie aujourd'hui d'avoir atteint la majorité de délégués requise pour sa désignation à la présidentielle. En fait, il ne l'a pas encore, mais ce sera chose faite après le scrutin dans 10 jours en Californie. Ce n'est donc qu'une petite question de timing, mais Trump en joue pour renforcer encore sa position de leader à la veille de la primaire du 7 juin, où il compte ainsi finir en beauté et décrocher la victoire fatidique pour son investiture fin juillet. La personnalité du candidat républicain a su capter les électeurs qui, loin de connaître la réalité économique du pays, se sont laissés séduire par un milliardaire qui se présente comme un homme hors système, loin des élites de Washington, quelqu'un qui pêle-mêle déverse sa colère sur tout ce qui bouge et promet monts et merveilles à coups de phrases cinglantes sans qu'on ne sache réellement quelle politique il entend conduire. Ainsi, ses annonces contre l'accord de Paris sur le climat, pour la domination mondiale des États-Unis dans le domaine de l'énergie, un objectif de politique étrangère et un objectif de stratégique, précise Trump, ses déclarations visent davantage à attirer l'attention des médias et embellir ses engagements. Je vais faire bouger les choses, qu'à expliquer réellement ce qu'il ferait s'il était élu président. Une forme d'irrationalité semble lier Trump à une partie du public américain. Reste à savoir si ce qui a fonctionné pour ses primaires sera payant pour le scrutin présidentiel en novembre.
Nadine Epstein, merci. En tout cas, effectivement, il faut souligner ce que disait Donald Trump hier dans son programme énergétique. Il s'est déclaré favorable à la construction aussi d'un oléoduc entre le Canada et les États-Unis, un projet qui avait été abandonné par Barack Obama sur fond de craintes environnementales. Et puis, cette annonce qu'il voudrait annuler donc l'accord de Paris sur le climat, qu'il cessera, dit-il, tous les paiements d'argent public américain au programme des Nations Unies sur le réchauffement climatique, qu'il avait jadis qualifié de canular.
France Culture, 12h42, suite du journal avec la fin du G7 au Japon. Les dirigeants des 7 pays les plus riches ont jugé la croissance mondiale toujours inférieure à son potentiel. Ils plaident pour des politiques budgétaires et monétaires coordonnées visant à stimuler l'activité économique.
Voilà pour le volet économique. Et puis dans son communiqué, le G7 s'inquiète aussi de la crise des migrants à laquelle fait face l'Europe. La question, dit le dirigeant du G7, doit être traitée à l'échelle mondiale. Quelques chiffres, 2015, environ 1,3 million de migrants qui demandent l'asile à l'Union européenne, dont plus d'un tiers en Allemagne. Pour l'instant, cette année, d'après l'Office des migrations internationales, environ 190 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer, gagnant l'Italie, la Grèce, Chypre et l'Espagne. Et puis, il faut signaler à nouveau deux naufrages très meurtriers ces derniers jours au large de la Libye. Des survivants parlent d'une centaine de disparus qui auraient été donc bloqués dans la coque d'un bateau qui contenait plusieurs centaines de personnes. Hier, il y avait eu un autre naufrage encore qui avait eu lieu également au large des côtes libyennes, 46 km au large des côtes. Au moins 20 ou 30 morts. Marie-Pierre Véraud, on en parle moins, mais le problème demeure bien là.
Oui, et les images de l'un de ces naufrages tournés par la marine italienne sont sidérantes. Un vieux chalutier bondé de réfugiés chavire se retourne complètement en pleine mer. Des grappes humaines glissent sur le pont alors que le bateau s'incline. Des hommes et femmes qui tentent en vain de se raccrocher à quelque chose. D'autres se jettent à l'eau, d'autres encore tentent de grimper sur la coque renversée ou d'agripper un gilet de sauvetage ou une bouée lancée par les gardes-côtes italiens. On ignore donc le bilan humain qui pourrait être d'une centaine de morts. Le problème, comme vous dites, demeure. Et avec la fermeture de la route des Balkans, cette route par la Méditerranée centrale, depuis les côtes libyennes et égyptiennes, redevient le premier lieu de passage vers l'Europe. On est d'ailleurs en ligne avec les chiffres de l'an dernier, à la même période, qui battaient déjà tous les records. Depuis le début de l'année, ce sont ainsi près de 38 000 migrants qui sont parvenus en Italie. 1500 autres ont trouvé la mort sur cette route. Pour vous donner une idée des rythmes, hier, 4000 personnes ont été secourues lors de 22 opérations et on compte toujours, ce sont 10 000 migrants qui ont été récupérés alors qu'ils dérivaient au large des côtes libyennes. Et comme le temps se fait clément, que le chaos continue de régner en Libye, il n'y a aucune raison pour que les traversées de candidats à l'asile ne se poursuivent pas. Notons que les opérations menées par l'Europe au large des côtes italiennes montrent leurs limites, qu'il s'agisse de Triton, ou dont la mission est avant tout de sécuriser les frontières européennes sous l'égide de Frontex, ou de l'opération Sophia qui vise à lutter contre les passeurs et le trafic de vies humaines. Le manque de moyens et la faiblesse de rayon d'action de ces navires européens n'y sont sans doute pas étrangers.
Marie-Pierre Véraud. Séquence interview, retour vers vous, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication depuis un peu plus de 3 mois. Vous avez occupé précédemment, on le sait, le poste de conseillère culturelle à l'Élysée. On parle beaucoup d'une nécessaire évolution de la manière dont on fait de la politique en général. C'est une grande question, on en a parlé sur cette antenne il y a peu de temps. Vous avez à la fois un regard finalement neuf et très expérimenté, puisque vous avez été longtemps, on va dire, en coulisses. À l'aune de cette expérience, de cette double expérience, qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon vous, dans la manière de faire de la politique aujourd'hui ?
Mon expérience, en tout cas ces derniers mois, à la tête du ministère de la Culture, c'est celle du dialogue et du rassemblement. Et je crois que c'est une méthode qui, pour l'instant, en tout cas, fait ses preuves. C'était le cas sur les intermittents.
On va en reparler précisément.
Le cinéma, encore récemment, la production audiovisuelle. Je crois qu'on a... En fait, on a, pour ce qui concerne la culture, un réseau exceptionnel en France d'institutions, d'artistes, de bibliothèques, de musées. La question de la politique, c'est aussi comment mettre toute cette richesse en mouvement, comment faire en sorte que cela profite à l'ensemble des Français.
Ça, c'est dur, par exemple ?
Ça nécessite du dialogue, de l'écoute, et ça nécessite de la politique. C'est pas forcément spontané.
Parfois, les hommes politiques manqueraient de sens politique ?
Non, en tout cas, ce que je crois, vous m'interrogez sur la méthode, je pense que la méthode, c'est de plus en plus, et les gens en ont besoin, c'est de dialoguer, de faire participer et d'impliquer. Et les gens veulent s'impliquer.
Alors ça, c'est la méthode. Sur le fond, qu'est-ce qu'une ministre de la Culture pourrait apporter au programme d'un président candidat à sa succession, qui serait par ailleurs un petit peu en difficulté, disons ? En quoi la culture peut être un enjeu pour 2017, selon vous ?
La culture est forcément un enjeu des élections présidentielles. Je crois qu'en France, c'est tellement notre identité, notre spécificité, que de mettre la culture très haut, que tous les présidents, ou les présidents en tout cas, ou les candidats aussi à la présidentielle, tous s'intéresseront à la culture.
En quoi ça pourrait être particulièrement vrai aujourd'hui pour cette élection, dans le climat de crise qu'on connaît ?
Je pense que la culture est un des espaces où on peut, encore une fois, mettre du dialogue. On voit que la société quand même se durcit, qu'il y a beaucoup de difficultés dans les domaines qui ne sont pas culturels, de dialogue, une certaine radicalisation parfois, et que la culture, c'est un des espaces légitimes pour parler. C'est un des espaces pour se rencontrer, c'est aussi un des derniers espaces, je pense, pour rassembler. En ce sens, c'est très politique.
Alors on s'interroge, est-ce qu'il faut aussi avoir une stratégie médiatique pour 2017 ? La question est plusieurs fois revenue ces dernières semaines. Le chef de l'État tenterait, dit-on, de reconquérir des médias qui sont censés par ailleurs le soutenir, être dans son camp. Je veux parler du cas de Aude Lancelin, par exemple, numéro 2 de l'Obs, qui a reçu hier sa lettre de licenciement. C'est Abdellah Khalidrissi qui nous raconte et puis vous intervenez après.
Au sein du journal, l'ambiance est extrêmement tendue. C'est ce que nous ont décrit plusieurs journalistes de la rédaction. Le licenciement d'Aude Lancelin était rapide et brutal, selon les termes d'un syndicaliste. Et les arguments mis en avant n'ont pas rassuré. Au contraire, officiellement, les motifs de son licenciement sont managériaux. Mais des journalistes expliquent qu'il n'y a eu aucun signe avant-coureur de tension entre elle et le directeur de la rédaction, Mathieu Croissando. Quelles seraient alors les autres raisons ? Paye-t-elle finalement le fait qu'elle gagnait en influence au sein du journal et qu'elle aurait pu faire de l'ombre au directeur de la rédaction ? Ou paye-t-elle une ligne jugée trop à gauche en ce qui concerne le choix des intellectuels invités à s'exprimer dans sa rubrique « Idées », là où le directeur et les actionnaires souhaiteraient un positionnement plus social-démocrate, une ligne dont se revendique d'ailleurs le président de la République. Beaucoup à la rédaction de l'Obs estiment que le licenciement d'Aude Lancelin est politique, une suspicion renforcée par les propos de Claude Perdriel, figure historique du journal et toujours actionnaire, qui a, selon nos informations, confirmé les raisons politiques du licenciement lors d'un conseil de surveillance. De quoi tendre encore plus la situation.
Abdellah Khalidrissi, il y a une quarantaine d'intellectuels, d'artistes qui ont signé une pétition en soutien à Aude Lancelin. Ils écrivent notamment « Cette opération de police intellectuelle, je cite, ne prend pleinement son sens qu'à la lumière de l'élection de l'année prochaine. On n'imaginait pas que sous un gouvernement de gauche, on pouvait encore assister à des mises au pas d'une telle brutalité. Ils en appellent à François Hollande. Si nos interprétations sont erronées, il suffirait que le chef de l'État, pour nous rassurer, puisse s'émouvoir publiquement de cette décision. Donc je vous pose la question à sa place. Est-ce que ça vous émeut, cette histoire ?
Je ne me permettrai pas de répondre à la place du président. Mais vous l'avez dit vous-même, ce sont des interprétations. Et je crois que moi, ce qui serait en revanche problématique, c'est qu'on rentre et on se mêle de la ligne politique d'un journal, de qui dirige quel journal. Là, je pense que ce serait un problème que ce soit le président de la République ou le ministre de la Culture. En revanche, ce que je tiens à dire, c'est que les actes doivent être pris pour ce qu'ils sont. Ce que nous avons fait depuis 2012 et encore hier au Sénat, c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire défendre l'indépendance des médias, notamment pour l'audiovisuel public, avec des procédures de nomination des dirigeants qui ne sont plus à la main du président de la République, comme c'était le cas avant 2012, mais qui passe par un organisme indépendant qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
C'est déjà ancien, c'est des mesures qui ont été prises il y a déjà quelques années.
2013, je veux dire, on parle du bilan et on parle donc 2013. Et alors, tout récent, hier soir, j'y étais encore, au Sénat, une proposition de loi sur l'indépendance des médias, notamment l'indépendance des rédactions par rapport aux annonceurs, par rapport aux actionnaires, et surtout une disposition majeure sur le secret des sources des journalistes, qui, je crois, est quelque chose de très important dans le fonctionnement de la démocratie et dans le fonctionnement de la presse. Et ça, c'est un élément majeur. D'ailleurs, je regrette que le Sénat, hier soir, n'ait pas voulu suivre la position de la majorité de l'Assemblée nationale sur ce point.
Il y a une commission mixte paritaire qui va arriver, vous allez peut-être pouvoir le faire revenir. Comment est-ce que vous réagissez au blocage de la presse quotidienne hier, qui a été organisé par la CGT, qui exigeait la publication d'un tract de Philippe Martinez dans les colonnes des journaux et qui du coup a bloqué toute diffusion, seule l'Humanité a finalement été imprimée et diffusée.
Je me suis exprimée là-dessus hier. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais enfin la liberté de l'information aussi.
Ça va jusqu'à une atteinte à la liberté de la presse ?
Ah, je trouve, oui. Ouais. Je trouve qu'en tout cas, c'est un dévoiement du droit de grève si c'est vraiment la conséquence du refus de publier un tract.
Est-ce qu'on peut éviter de tels actes à l'avenir, Audrey Azoulay ?
Chacun prend ses responsabilités. Je veux dire, je ne suis pas dans les imprimeries et chacun prend ses responsabilités, mais j'en appelle justement. La liberté de la presse est trop précieuse et le droit de grève aussi, pour qu'on les mette en danger en les croisant de cette façon.
Lundi, un journaliste correspondant de La Croix et de RTL en Égypte a été expulsé du pays sans raison apparente. Il avait un visa de journaliste en cours de validité. Rémi Pigaglio est victime, selon vous, d'une intimidation, d'un message qui est envoyé par les autorités égyptiennes à la presse étrangère.
J'étais en Égypte il y a peu de temps, et en accompagnant le président de la République, et nous avons rencontré d'ailleurs beaucoup d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels, qui sont aussi préoccupés par leur capacité à s'exprimer librement. En ce qui concerne ce journaliste, il a été, défendu, pris en charge, et le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé pour regretter profondément qu'en fait, il n'ait pas été autorisé à revenir dans le pays.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse revenir avec une aide des autorités françaises qui pourraient faire pression ?
Les autorités françaises l'ont fait déjà, bien sûr.
Ça ne marche pas pour l'instant.
Non, mais...
Vous avez probablement entendu, Audrey Azoulay, les doutes émis sur la création de la chaîne d'information du service public, la chaîne de télévision d'information de service public qui doit commencer à émettre le 1er septembre en partenariat entre Radio France et France Télévisions avec un soutien appuyé du gouvernement. Comment faire pour, et je reviens un peu sur la thématique que prenait Antoine tout à l'heure, comment faire pour d'ici à cette date, d'ici au lancement de cette chaîne le 1er septembre, contrer les accusations entendues régulièrement de Télé Hollande? On créerait une Télé Hollande pour l'élection, pour la réélection de l'an prochain?
Je pense que la meilleure réponse est ici. C'est-à-dire que l'audiovisuel public est indépendant. Je crois que... Vous le savez, c'est vrai pour la télévision publique, c'est vrai pour la radio publique, c'est sa force aussi. Et là, on parle d'un projet qui va rassembler, c'est pas uniquement une chaîne de télévision d'ailleurs, je crois, c'est un service d'information sur plusieurs médias qui va rassembler différentes composantes de l'audiovisuel public qui sont là. On a des rédactions à Radio France, à France Télévisions qui sont très solides, très fortes. Il y aura aussi celle de France Média Monde. Et donc, dans le respect de leur mission, de leur indépendance, ils vont se rassembler avec les forces existantes qu'ils ont déjà pour un nouveau projet au service des Français, qui est une information de service public.
Quelle différence avec les radios, les télés continues
qu'on... C'est comme la différence qu'on connaît entre le privé et le public. C'est pas la même ligne. Il faudra qu'elles apportent. Comme ce service va venir après d'autres qui existent, avec succès, depuis un certain temps, il faudra qu'ils marquent leur différence, justement, capacité de décryptage, d'information, prendre le temps, l'international aussi. Je pense que c'est un très beau défi et qu'on a ces forces-là au sein du service public.
Benoît Bouscaret.
Cette chaîne publique est créée dans un contexte social encore sensible, après le mouvement de grève qui a touché Radio France l'an dernier. Elle va demander des moyens conséquents, alors que le problème de la précarité dans cette maison, notamment, se pose toujours. Est-ce que le gouvernement en a conscience et est-ce que vous avez des marges de manœuvre pour tenter de réduire la précarité dans le secteur de l'audiovisuel? C'était un des enjeux de la fin de grève. Le médiateur s'était engagé auprès du gouvernement, il y a un peu plus d'un an, à résorber la précarité. Pour l'instant, on reste sur les mêmes chiffres, les mêmes proportions. Salarié sur 5 en situation de précarité.
Ce sera un travail long, mais qui est nécessaire. C'est nécessaire pour l'emploi, par exemple, à Radio France, mais pas seulement. C'est aussi un débat qu'on a eu avec les partenaires sociaux dans le cadre de l'intermittence. L'intermittence, le régime de l'intermittence, c'est un régime qui est spécifique pour des emplois discontinus et ce qui n'est pas de l'intermittence doit être pris dans de l'emploi permanent. Ce sera progressif parce qu'on sait qu'on vient de très loin en la matière, malheureusement, mais c'est une démarche à laquelle nous sommes tout à fait engagés.
Justement sur les intermittents, lundi au siège du MEDEF doit avoir lieu une réunion cruciale sur le régime général d'assurance chômage et les intermittents du spectacle évidemment attendent beaucoup de cette réunion. La pression chez les artistes et les techniciens, on le sait, est toujours palpable. D'un côté, ils se sentent concernés par la loi travail, d'un autre côté, ils refusent d'être ce qu'ils pourraient appeler une variable d'ajustement dans les négociations sur l'UNEDIC. Comment est-ce que vous pouvez les rassurer aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que l'accord qui a été signé fin avril, qui est un accord intéressant, d'après eux, est-ce que cet accord peut être mis en œuvre pour le 1er juillet? C'est la grande question qui se pose en ce moment.
Et accepté par les partenaires sociaux, notamment le MEDEF, dans ce climat de crise.
Je voudrais peut-être rappeler en deux mots quand même ce qui a été fait et ce qui a abouti à cet accord historique en avril. Là aussi, c'est une question de dialogue. Pour la première fois, les gens qui ont négocié cet accord, ce sont les partenaires sociaux du spectacle. Auparavant, ça ne se passait pas à leur niveau, mais ça se passait au niveau des confédérations. Donc pour la première fois, ce sont les employeurs, les salariés du spectacle qui ont négocié. Il y avait des revendications depuis plus de 10 ans, 13 ans, qui étaient insatisfaites. Et en même temps, un sujet d'économie générale, d'équilibre financier, de l'assurance chômage dans son ensemble et de l'intermittence aussi. Donc pour la première fois, grâce à une loi de 2015, ce sont eux qui ont eu les clés de la négociation. Ils ont trouvé un accord responsable. Cet accord, en plus, produit des économies qui viennent d'être chiffrées par un comité d'experts. Donc maintenant, la question, c'est de le mettre en œuvre et qu'il soit validé.
C'est moins de 100 millions d'euros, le MEDEF. Autour de 100 millions. 180 millions.
Oui, mais rappelez-vous que le cadrage du MEDEF, c'était 100 millions d'euros d'économies du système et un appel à ce que le gouvernement finance par de l'ordre de 80 millions d'euros. Ce que le gouvernement fait par ailleurs, c'est qu'il va financer un fonds pour l'emploi justement pour lutter contre la précarité.
C'est la méthode Azoulay, on n'avait pas fait ça avant, trouver ce moyen de mettre les gens face à face directement.
Ça a commencé depuis 2015, il faut quand même le reconnaître, cette affaire de mettre les partenaires du spectacle en face. Mais effectivement, c'est une méthode qui a fonctionné encore récemment, j'en suis très heureuse, sur l'audiovisuel, sur la production audiovisuelle, et aussi, bien sûr, sur le cinéma.
Le 1er juillet, cette date, vous y croyez, Audrey Azoulay? Parce qu'il y a un risque sur la saison culturelle, les intermittents, s'ils n'obtiennent pas satisfaction, menace encore.
Leur demande, elle est tout à fait légitime, c'est que ça se mette en œuvre rapidement, et je pense que tout le monde y a intérêt. Ça va produire des économies, ça va produire en même temps des droits nouveaux, chacun a fait des efforts, il n'y a aucune raison de tarder. C'est paradoxalement peut-être le secteur en plus qui a avancé le plus vite dans la négociation générale de l'assurance chômage, donc pourquoi le retarder?
Question de Caroline Brouet.
Oui Audrey Azoulay, les questions d'actualité, les dossiers sont extrêmement nombreux. Vous étiez aussi le 25 mai dernier en tant que ministre de la Culture et de la Communication au Conseil des ministres où vous avez présenté une communication sur la politique en faveur du cinéma. Les dossiers sont extrêmement nombreux quand on est chargé d'un ministère comme celui-là, mais j'aimerais, comme vous le savez, sur France Culture, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République ici même mardi, prendre de la hauteur sans que Yann Barthès s'en émeuve et se moque de ça. Je trouve que ça a vraiment du sens, ça n'est pas du mépris, c'est aussi prendre le temps d'aller sur les questions de fond. Prolonger la question d'Antoine Mercier tout à l'heure sur l'importance de la culture aujourd'hui. On recevait dans cette première partie de la Grande Table l'artiste JR qui fait une installation sur la pyramide du Louvre et qui investit d'ailleurs le musée tout le week-end. Et sur cette installation, il disait que pour lui, c'était la preuve, et c'est la preuve constante de son travail, que l'art, c'est avant tout du partage. Mmh. Il dit, je viens là, je parle avec les gens, c'est du lien social, on recrée un dialogue. Alors le dialogue, vous ne cessez de le dire, c'est important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a la sensation que les dossiers techniques, qui sont nombreux, les chiffres, ont pris le dessus sur ce dialogue, sur cette importance de rappeler que la culture, l'art, ça sert avant tout à être un supplément d'âme. Et donc je voudrais vous demander, vous qui venez d'une famille cultivée, ça remonte à loin, famille, vous, votre propre famille, mais aussi une famille au sens large, vous êtes vous-même très cultivée, vous entretenez cette culture, cet amour de la culture. Si vous ne vivez pas mal ce décalage que nous ressentons, nous, dans la société civile, entre cette technicité des ministères aujourd'hui et l'importance du dialogue, mais qui va beaucoup plus loin, en fait.
C'est un débat très intéressant et j'ai d'ailleurs moi souvent eu l'occasion de regretter, je l'ai fait publiquement encore récemment, que souvent on instrumentalise la culture et qu'on la réduise aussi à des chiffres. Et on a été incité un petit peu à cela, à dire voilà, la culture c'est aussi telle part de la valeur ajoutée, telle part. C'est vrai, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, et on s'en aperçoit aussi parce que la culture a été attaquée, on s'aperçoit en quoi elle est essentielle quand on est touché dans cette dimension-là. La culture, c'est d'abord ce qui nous rassemble. Parce que ce partage qu'évoquait JR ce matin à votre antenne, ce dialogue, lui, il est capable en plus de faire ça dans le monde entier, dans des lieux. Il sort des... Parce que même quand il est au Louvre, il est dehors en réalité, il est sur la pyramide. Donc c'est aussi aller vers les gens et faire du lien. Et pour moi, c'est ce lien-là qui est vraiment l'essence même de la culture. La culture, ce n'est pas uniquement lire un livre chez soi, c'est ce partage-là. Et effectivement, on a des dossiers techniques à régler. On est contraint aussi, par exemple, dans notre dialogue avec la Commission européenne, parce que c'est ce dialogue-là qu'on a, c'est ce type d'argument qu'on a. Mais l'essence, on l'aperçoit aussi dans les situations de crise, d'ailleurs, dans les pays en guerre. On voit aussi dans les attaques terroristes. On voit bien la culture, ce que c'est en réalité. La culture, c'est ce qui fait société, c'est ce qui nous rassemble, c'est le rapport à l'autre, puisque c'est ça la culture, c'est nous mettre en présence de quelque chose d'ailleurs parfois qui est dérangeant. Et il faut aussi accepter que les artistes soient dérangeants. On a cette volonté, on l'a quand même beaucoup entendu récemment, que tout soit bien dans la norme, que rien ne gêne. La culture, c'est pas ça. La culture, c'est la différence et c'est le rassemblement.
Alors pourquoi on l'entend pas assez, Audrey Azoulay ? On va parler de la recherche dans un instant avec Serge Haroche. Mais pourquoi on a le sentiment qu'aujourd'hui ça n'est plus une priorité ? Pourquoi les artistes, les intellectuels ont l'impression, alors qu'ils étaient tous, une grande partie disons, derrière le président de la République il y a 4 ans, pourquoi ils ont l'impression que ce gouvernement de gauche ne les soutient plus, ne les a abandonnés, ou en tous les artistes, mais aussi la société en général, pourquoi cette importance de la culture n'est pas sans arrêt rappelée?
Elle est rappelée. Après, je pense qu'il y a un rapport peut-être qui évolue aujourd'hui entre, pour les artistes, sur la forme de l'engagement politique. Et c'est quelque chose de plus général dans la société. Je pense que l'engagement politique ne prend plus les mêmes formes et qu'ils ont peut-être se sont-ils sentis parfois instrumentalisés ou voilà quelque chose qui les dévoyait peut-être aussi de leur art. Je pense que le vrai engagement finalement des artistes, c'est leur art. C'est d'être, je dirais, presque radicaux dans ce qu'ils font en tant qu'artistes. Et c'est ça le vrai engagement. Et c'est en ça qu'ils apportent à la société. C'est pas forcément en s'alignant dans des meetings.
Vous insistez, Audrey Azoulay, sur le rassemblement, sur le dialogue. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que tout cela profite à l'ensemble des Français. Est-ce que ça veut dire que l'accès à la culture pour tous est une priorité pour vous?
Bien sûr. Et je pense que c'est une dimension essentielle. Parce qu'une culture qui serait réservée à certains ne jouerait pas son rôle. Et en même temps, je me méfie beaucoup de certains discours populistes qu'on entend en ce moment. On les entend dans certaines municipalités où on revient sur une certaine forme d'exigence au nom de faire un art populaire, accessible à tous. Je pense qu'il faut garder avec la notion d'accès de la culture à tous une notion d'exigence très élevée parce que sinon, là aussi, on dévoie la culture.
Comment vous allez-vous vous y prendre ?
Pour cela ?
Ouais.
C'est en soutenant les artistes dans leur travail, par exemple ceux qui sont dans certaines collectivités qui sont en retrait, les soutenir. C'est en favorisant le fait d'avoir des artistes qui sont en résidence, qui sont sur tout le territoire, en donnant des moyens aux compagnies, en ouvrant une réflexion en ce moment sur le musée du 21e siècle, pour que le musée aussi sorte de ses murs, sache accueillir les enfants, sache participer justement à ce lien collectif. C'est une multitude de chantiers, mais avoir toujours cet objectif du partage, de l'accès, et aussi, très important, sur tout le territoire. Parce qu'on a des zones aujourd'hui où il y a insuffisamment d'accès. Alors heureusement, vous, Radio France, vous êtes partout, mais vous allez dans certaines zones rurales comme je l'ai été. Bon, heureusement qu'il y a toujours des gens d'ailleurs, eux, très engagés, qui font un travail formidable, qui sortent et qui vont sur tout le territoire. Mais on a aussi un problème de maillage du territoire qui doit être plus complet.
En disant tout cela, tout de même, on a l'impression que vous allez à contre-courant d'un mouvement général sur le chiffre, la rentabilité, les choses qui doivent marcher, l'Europe, etc. Est-ce que vous vous sentez seul parfois à défendre l'importance précisément de ce qui n'est pas matériel ?
Vraiment pas, parce que mes 3 mois là de ministre, j'ai rencontré beaucoup de monde, je me suis beaucoup déplacée et au contraire, je suis frappée par l'engagement, qui est un engagement politique, par l'engagement de ces gens qui sont à leur façon chacun des militants de la culture, mais ça peut être la librairie, ça peut être la bibliothèque, ça peut être les arts de la rue en Ardèche.
Oui, ceux qui sont sur le terrain, mais les autres politiques.
Les autres politiques, en tout cas pour ceux que je connais et ceux de mon gouvernement, je n'ai aucun doute sur leur engagement à cet égard.
Merci Audrey Azoulay.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Encore un petit mot pour vous donner la météo. Comme d'habitude, nuageux et orageux sur une moitié nord-ouest du pays, ensoleillé sur le sud-est, des températures qui vont aller de 16 à 28 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Et le prochain journal est à 18h avec Antoine Dénécher. À signaler encore le magazine de la rédaction, 17h, une semaine avant l'ouverture de la conférence ONU-SIDA, Côte d'Ivoire, le combat des prostituées contre le sida. Reportage d'Aurélie Kiffer réalisé par Annie Bro, présentation de Tara Schlegel.